Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La commémoration du génocide arménien est évidemment plus visible et plus audible en cette année du centenaire. À l'écoute de l'émission qui vient, Rencontre, proposée par Patrice Galbeau, on peut se demander ce qui a changé depuis sa diffusion, début 1978. On ne peut pas s'inquiéter pour la cuisine ou la poésie arménienne, dit une invitée de cette rencontre, alors que les dialogues ne se font pas entre les descendants des victimes du génocide et les descendants de ceux qui ont commis le génocide. Fin de citation. De ce côté-là, et depuis la fin des années 70, rien n'a avancé, même si en Turquie, des intellectuels aujourd'hui osent poser la question et interroger leur gouvernement sur la responsabilité du génocide. Ah si, ce qui a changé, bien sûr, depuis la fin des années 70, l'émission qui vient a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 janvier 1978, c'est la fin de l'Empire soviétique.
Il y a 15 jours, nous avions installé nos micros de rencontre parmi la communauté arménienne de Paris pour passer ensemble la journée de Noël. Et bien aujourd'hui, nous sommes encore réunis, bien que Noël soit loin, parce qu'il m'est apparu qu'il y avait beaucoup à dire et beaucoup à apprendre sur l'Arménie, ce mythe bien-aimé, pour reprendre une formule qui vous est chère à tous. Autour de Arlène Papazian, cinéaste bien connu et réalisateur à la télévision, j'ai donc réuni cet après-midi le docteur Yves Ternon, historien, Anaïde Termination, maître assistante à l'Université Paris 1, le professeur Jean-Pierre Maheu, Aria Krikorian, Armand Michanian, adjoint au maire d'Alfortville, Luc-André Marcel, compositeur, écrivain, inspecteur de musique au secrétariat d'État aux affaires culturelles, Zovinar Kevonian, qui a 11 ans et qui est bien entendu notre invité d'honneur. Vous êtes tous politisés, tous épris de culture. Si je voudrais vous livrer une phrase du président Léopold Sédar Senghor. Il y a quelque temps, j'ai eu une série d'entretiens avec le président Senghor. Il me disait que pour lui, la culture était l'alpha et l'oméga de la politique. Non seulement son fondement, mais son but. Elle a une termination. Vous qui êtes politisé, vous qui êtes passionné par la culture, surtout la culture arménienne, comment voyez-vous les rapports culture-politique pour les Arméniens?
En définitive, nous savons tous que la culture n'est pas du tout un domaine innocent. Toute culture est politique. Et cette revendication qu'ont les jeunes Arméniens à pouvoir vivre sans conflit, sans honte, une double culture, à être par exemple des citoyens français, non pas simplement d'origine arménienne, mais des Arméniens de France. Ce que d'ailleurs je dois dire, je dois mettre ça à l'actif du Parti Socialiste, ce que par exemple le Parti Socialiste a parfaitement compris, puisqu'il existe une commission des minorités nationales françaises, et je dois rendre cet hommage au Parti Socialiste, à côté des Basques, des Bretons, etc. Aujourd'hui, on admet qu'il existe une communauté française sans territoire et que, par exemple, que la communauté arménienne de France constitue une communauté française sans base territoriale. Donc, on reconnaît qu'elle puisse vivre à la fois comme communauté arménienne et comme communauté française. Alors, ce mouvement, la jeunesse arménienne, depuis 68, a bénéficié d'une sorte de sympathie, d'un mouvement qui s'est créé en France même au cours des cultures régionales. Ce droit au pluriel, comme on dit, opposé au singulier, qui serait une culture dominante, par exemple la culture française. Mais ce droit au pluriel, c'est-à-dire le droit d'être un breton, un occitan, un arménien, etc., c'est quelque chose qui a permis certainement à cette jeunesse arménienne de découvrir, avec un enthousiasme que nous avons tous constaté, cette culture du passé. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, il existe une culture arménienne d'expression française, à travers laquelle des jeunes Arméniens ou des moins jeunes expriment leurs problèmes d'identité culturelle, mais aussi leurs problèmes politiques qui est au centre de la culture arménienne.
C'est ce que vous dites est très important, madame, n'est-ce pas ? Je pense que l'Arménie n'a pas uniquement besoin de la langue arménienne pour être Arménie. Elle peut l'être en français ou en anglais, ça ne gêne pas.
Elle l'est pour le moment en français et en anglais, c'est une expérience, si vous voulez, tout à fait récente. Mais il est vrai aussi que depuis quelques années, un certain nombre de jeunes Arméniens n'acceptent plus non plus cette situation.
Mais oui, mais c'est très arménien. Vous comprenez ? Je disais que l'Arménien absorbe. Ben voilà un exemple.
Monsieur Krikorian, il y a quelque chose
Oui, moi, il y a une chose extrêmement importante, puisqu'on a commencé à parler de culture et de politique. Il faut quand même préciser les choses. Vers quoi ou contre quoi se développe la révolte dont on a parlé tout à l'heure de la jeunesse arménienne ? Alors ce n'est pas en priorité envers l'Union soviétique, loin de là, mais envers tout de même la Turquie, à l'époque l'Empire ottoman, qui a provoqué, comme Yves Ternon l'a fort bien dit dans son ouvrage « Les Arméniens, histoire d'un génocide », le génocide de 1915, qui est en vérité la cause de la dispersion arménienne est la cause de ce débat d'aujourd'hui, où nous parlons culture et politique comme si nous découvrions d'un seul coup qu'il y avait une espèce de symbiose entre la culture et la politique, alors que c'est parfaitement vrai, et les 600 intellectuels arméniens d'Istanbul, de Constantinople à l'époque, le savent fort bien, puisqu'ils ont péri un jour de 24 avril 1915, parce que précisément, ils intégraient cette ambivalence. Alors, donc, la révolte des Arméniens d'aujourd'hui et de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est précisément contre cette frustration dont on a été victime et dont nous, bien que nés en France, nous ressentons parfaitement la réalité, n'étant pas allés en Arménie soviétique, et ce qui est un paradoxe pour moi qui suis arménien, alors que le professeur Mahé y a passé 15 mois, lui qui est français. Bref, il y a une espèce de conjonction réelle entre la culture et la politique dont nous sommes, nous, les victimes. Alors, comme on parle de la Turquie, et que le problème, à mon avis, se pose à ce niveau-là, est-ce que on n'aurait pas pu imaginer, dans ce débat d'aujourd'hui, de parler avec ceux qui nous ont chassés de nos territoires, c'est-à-dire des Turcs. Or, je trouve un peu regrettable que, malgré l'injonction de Ternon dans sa conclusion, la conclusion de son livre, mais il faut dialoguer avec la Turquie, nous y sommes prêts, mais la Turquie n'est pas là, les Turcs ne sont pas là.
Il y avait tout à l'heure, avant de commencer l'émission, deux personnes à qui j'avais demandé d'y participer, dont un Turc. En dernière seconde, il a refusé de participer à l'émission. Je peux vous dire qu'il a dit sa crainte d'être attiré dans un piège par vous autres qui êtes des fascistes. Voilà exactement sa phrase. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous la livre.
Laissons à Yves Ternon de justifier sa présence parmi les fascistes arméniens.
Bon, ce mot de fasciste est tellement ridicule quand il s'agit d'un combat pour la liberté et pour la dignité de l'homme et contre toute action raciste que je ne le relèverai pas, je laisserai à sa pauvre formulation. Elle déshonore vraiment celui qui l'a prononcé.
Et celui qui l'a inspiré.
Nous en revenons toujours au même problème. Imaginez ce qu'est une famille arménienne actuellement. Elle est bourrelée de cicatrices. C'est-à-dire, chaque famille arménienne est pleine de souvenirs de morts qui ont disparu il y a 60 ans sur une terre turque. Alors, on ne peut quand même pas s'inquiéter beaucoup du devenir de la cuisine, ni même de la poésie arménienne, quand le problème est là, problème vital pour toute identité arménienne. On butera toujours sur cette question si on ne veut pas accepter le dialogue avec les enfants de ceux qui ont survécu et les enfants de ceux qui ont provoqué ce drame de 1915 que j'ai appelé, et je le maintiens, génocide, c'est-à-dire volonté déterminée par un gouvernement, en l'occurrence le gouvernement jeune turc, d'annihiler, d'exterminer, d'extirper jusqu'à la dernière racine toute vie arménienne sur ces territoires orientaux de la Turquie qui étaient jadis terre en grande partie arménienne. Donc, je crois que nous pouvons peut-être ouvrir le débat sur ce sujet. Bien entendu, l'absence des Turcs nous permet d'être tous d'accord là-dessus. Mais pourquoi ne sont-ils pas là? Faut-il le dire en face? Ont-ils peur que leurs terres soient revendiquées? Les terres qui sont occupées actuellement, qui sont actuellement territoire turc, soient reprises un jour par les Arméniens? Ont-ils peur de ce que Nazım Hikmet appelait cette tâche sur le front turc, c'est-à-dire de reconnaître ce crime qu'ont commis leurs pères? Ont-ils peur des indemnités à verser? Où est la peur? Où est le refus? Pourquoi créer un front global du refus en cette période où, justement, tout le monde cherche à se tendre la main à travers des problèmes qui sont également très difficiles? Pourquoi est-ce que les Arméniens n'ont pas le droit de parler à des Turcs? Est-ce parce que les Arméniens n'ont pas de division, n'ont pas à leur opposer, n'ont pas d'armée à leur opposer? Est-ce parce qu'ils ne sont pas un État et qu'ils sont simplement une identité qui cherche à se retrouver? Voilà un peu comment j'aimerais qu'on situe le débat.
Je suis entièrement d'accord avec votre analyse. En somme, nous pouvons résumer tout ce que nous avons dit. Le problème de la culture arménienne, c'est un problème politique. Ce problème politique se ramène à quelque chose, à une équation très simple. Le refus de nos amis turcs, je ne sais pas si je peux les appeler ainsi, de participer aujourd'hui à ce débat, en définitive, à mon avis, s'explique par le fait que les Arméniens de la diaspora ont une revendication qui est une revendication territoriale. Ils ont été, ou leurs parents ou leurs grands-parents, ont été chassés de leurs terres par le premier génocide du XXe siècle. Cet acte n'a reçu aucune espèce de réparation. Vous avez parlé de réparation financière, de réparation morale, de réparation territoriale. Je ne sais pas si les Arméniens, un jour, recevront cette réparation territoriale. C'est-à-dire que je ne sais pas si les anciens habitants de l'Arménie retourneront un jour dans cette Arménie. Mais il est clair que pour un certain nombre de jeunes Arméniens, que ce soit à New York, à Boston, à Montevideo, au Moyen-Orient ou à Paris, la question arménienne, c'est-à-dire celle du maintien de la culture arménienne, passe par la revendication territoriale de la Turquie. Et cela explique peut-être le silence de tous les partis turcs, car ce que je regrette aujourd'hui ici, ce n'est pas l'absence de, je n'ose pas dire, des fascistes turcs, ça serait tomber dans la même bassesse et utiliser un langage que je déteste utiliser, mais j'avais espéré qu'au moins la gauche turque ou l'extrême gauche turque serait présente ici pour discuter en marxiste de ce problème du génocide.
Je peux
et
vous dire.
Éventuellement des réparations possibles, éventuelles. Et en tous les cas, accepter qu'en face, les Arméniens ne puissent pas aujourd'hui voir leur avenir dans une sorte de culture croupion qu'on leur propose comme substitut dans les sociétés industrielles occidentales.
Je peux vous dire aussi qu'un représentant de la gauche arménienne a refusé aussi de participer à l'émission.
Alors, évidemment, je n'oserais vous demander de quelle gauche arménienne il s'agit, mais il faut aussi, peut-être à un moment donné dans cette émission, aborder le problème de l'Arménie soviétique. Je ne sais pas si c'est à cela que vous faites allusion, car le problème arménien est en effet complexe. Si les 9/10 du territoire arménien se trouvent aujourd'hui en Asie mineure et sont occupés non seulement par des Turcs, mais il faut dire par un autre peuple opprimé, une autre nation dont la voix ne réussit pas à se faire entendre, qui est la nation kurde, un dixième du territoire de l'Arménie se trouve en Union soviétique, constitue une Arménie soviétique avec ses problématiques particulières, et je crois qu'on peut avouer que cette diaspora arménienne, depuis 50 ans, est en effet divisée par le problème de l'acceptation de l'Arménie soviétique comme une patrie possible pour tous les Arméniens, mais patrie qui n'accueille pas tous les Arméniens. Monsieur Arakli Korian a fait remarquer tout à l'heure que lui n'a pas vécu en Arménie soviétique, alors que le professeur Mahé, appelé par ses fonctions, a eu ce bonheur, je crois. C'est ce terme que vous avez utilisé. En effet, nous nous sentons très frustrés de cela. Alors, l'Arménie soviétique aussi pose un problème qui est le problème général des libertés en Union soviétique.
Dans l'incapacité de promouvoir la culture, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'apprendre le passé, mais également de créer tous les jours une culture propre, de créer des chants, d'écrire, etc. Eh bien, nous recherchons un peu notre salut, une voie, une planche dans une espèce de culture politique qui va nous faire revenir vers Sayat Nova et vers tout cela. Et je crois que cette espèce de quête un peu dramatique qui est la nôtre résume assez bien dans quelle mesure les problèmes politiques sont, pour une diaspora comme la nôtre, et en particulier d'ailleurs la diaspora arménienne qui vit en France, qui est l'objet, comme disait Anaïs Derminassian, de la séduction occidentale, a bien plus de mal que la communauté arménienne du Liban, où, d'abord par des proportions démographiques et également par le fait qu'il y a une différence de religion très importante, eh bien, ils survivent mieux que nous et ils arrivent à créer quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle il y a deux directions dans lesquelles la jeunesse arménienne française va. D'une part, une politisation accrue, et c'est pourquoi les événements que nous avons connus il y a un an et deux ans, en particulier attentats contre des ambassadeurs turcs, ont été quand même ressentis, non pas comme une grande joie, mais comme quelque chose qui prenait corps et donnait une espèce d'espérance un peu tragique, mais enfin une espérance quand même. Or, cette intégration donc de la jeunesse arménienne ne veut absolument pas dire assimilation, et je crois que nous retrouvons, nous, jeunesse, cette double voie qui est la voie de la politique et la voie de la culture propre.
Je suis tout à fait d'accord sur le fond avec vous. Je nuancerai quand même ma pensée. Je crois que ce n'est pas la politique qui conduira vers Sayat Nova. Je crois plutôt que c'est l'art politique qui doit se nourrir de la culture arménienne. Je crois qu'il y a dans cette politique aussi un problème de psychologie. Et la psychologie du peuple, et ça c'est très important, elle est très particulière. L'arménien n'en est pas à disparaître au cours des siècles. Comme on le disait, 27 siècles, c'est long.
Zavina.
Tout à l'heure, on parlait de transmettre ces savoirs aux jeunes, mais aussi il y a deux points. Il y a transmettre et comprendre ce qu'on transmet. Parce que si on transmet, par exemple, la langue, sa patrie, et puis il faut faire comprendre. Parce qu'il y a des enfants, on leur dit « vous êtes arménien », et puis on ne leur comprend pas que « vous êtes arménien », c'est quoi ? C'est quoi être arménien ?
Là, je te le demande. C'est quoi être arménien ?
Je m'excuse d'insister. Je crois qu'il y a deux problèmes. Il y a l'arménien tel qu'il est, avec son génie complexe, et rendu complexe par son ancienneté, sa longévité, et la complexité des événements qui l'ont assailli. C'est une chose. Il y a aussi l'efficace, si l'on peut dire, de l'idée d'Arménie sur l'arménien. C'est une deuxième chose. Or, ce qui m'intéresse, c'est le génie profond, si vous voulez. Comprenez ? Le reste est presque une sorte de plâtre nécessaire, mais plâtre quand même.
Ce n'est pas une vision poétique, Luc-André Marcel.
Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout.
Jean-Pierre Mahé, s'il vous plaît.
Je voulais rappeler ce que disait Ara Krikorian tout à l'heure, c'est qu'il y a ici beaucoup d'Arméniens qui ne sont pas allés en Arménie soviétique. Par contre, vous qui êtes français, vous y avez passé deux ans.
Oui, c'est justement de cela que je voulais parler. On a dit à l'instant que le problème de la culture arménienne était lié à un problème politique. Je ne sais pas dans quelle mesure je peux vous suivre sur ce point-là, mais ce qui est certain, c'est que de la situation politique actuelle fait partie l'existence de l'Arménie soviétique. Et je voudrais souligner le fait que, justement, à mon sens... En Arménie soviétique, les Arméniens n'ont absolument aucune difficulté à vivre et à renouveler leur culture arménienne. J'en suis, si vous voulez, un exemple. Il est certain que j'avais appris, j'étais professeur de langues anciennes, professeur de latin, j'ai appris l'arménien aux langues orientales d'une façon, disons, semi-vivante, simplement. J'ai plutôt appris l'arménien comme une langue morte. Et si j'ai pu avoir la chance de trouver un milieu arménien où on m'a parlé arménien du matin au soir, où le chauffeur d'autobus, le chauffeur de taxi me parlait arménien, tous les collègues, tous les employés du bureau de poste, c'est justement en Arménie soviétique que je l'ai trouvé. Et je pense que l'Arménie soviétique peut s'enorgueillir d'une littérature, d'une littérature qui lui est propre et qui est quelque chose de très brillant et qui est, à mon sens, une très grande chance pour les Arméniens d'aujourd'hui. Il me semble que, évidemment, il y a une question politique que je ne veux pas aborder sur ce point, mais il me semble que s'intéresser, enfin, il faut considérer que, malgré tout, le fait qu'il existe aujourd'hui une Arménie soviétique est, entre autres choses, une garantie de survie de l'existence du peuple arménien. Ça, il faut le dire très fort, quelles que soient les opinions politiques que l'on puisse avoir, d'autre part, à propos de l'Arménie soviétique, entre autres. Et le dynamisme de la culture arménienne soviétique est, à mon avis, une grande chance pour tous les Arméniens en général.
Armand Ishamian.
Je remercie Maë d'avoir dit cela, parce qu'effectivement, c'est pour nous, et pour moi en particulier, je ne sais pas si c'est la vie de tous, un réconfort de savoir qu'il existe quelque part sur la Terre un foyer arménien vivant. Parce que ça nous, pour moi, ça lève le poids de l'angoisse de savoir si je saurais transmettre cette culture à mes descendants et si je saurais, à moi, à titre personnel, la maintenir. Mais cela m'amène à dire aussi autre chose. On a parlé tout à l'heure de cette jeunesse qui se politisait sur le problème arménien. Et comme j'ai dit qu'il y a irruption dans les conservatoires culturels arméniens d'une nouvelle jeunesse, il y a aussi irruption sur le plan politique. D'ailleurs, ici, les Arméniens présents ont tous un engagement politique à un titre divers. Je suis élu local, je suis socialiste, je suis adjoint à un maire socialiste, on l'a dit tout à l'heure. Bien, ça n'est pas certainement un hasard. Nous avons une recherche à travers une démarche différente.
L'Arménie, c'est un foyer vivant, c'est tout à fait exact. Je voudrais quand même corriger légèrement ce que vous venez de dire, par le fait qu'en dehors de cette Arménie soviétique, qui a une population à 85% d'Arméniens, c'est-à-dire qui est en effet la plus homogène des républiques, des 15 républiques fédérées d'Union soviétique, je crois qu'il n'y a aucun autre exemple similaire, sauf peut-être la Géorgie, l'Arménie a une population, l'Arménie soviétique est une toute petite république qui fait à peine 30 000 km², bon, qui s'est constituée sur les débris du peuple, d'abord de la géographie arménienne et du peuple arménien. Cette Arménie soviétique accueille aujourd'hui environ les deux tiers des Arméniens de l'Union soviétique, mais à peine 40% des Arméniens du monde entier, car on considère que la communauté arménienne, autant qu'on puisse l'estimer, dans son ensemble constitue aujourd'hui une population d'environ 5 millions d'individus, et il y aurait à l'heure actuelle en Arménie soviétique quelque chose comme 2 400 000 habitants, donc 85% seraient des Arméniens. Mais je voudrais vous rappeler qu'il existe aussi en Union soviétique une diaspora arménienne soviétique qui regroupe un peu plus de 1 300 000 individus, et que cette diaspora arménienne soviétique, sauf lorsqu'elle se trouve à proximité de l'Arménie, sauf lorsqu'elle se regroupe en Arménie soviétique, ce qui est d'ailleurs un mouvement qui est largement encouragé par le gouvernement d'Arménie soviétique sous le couvert de recrutement d'une main-d'œuvre nécessaire à l'Arménie, cette diaspora est aussi menacée et connaît les mêmes problèmes d'assimilation, les mêmes déchirements que les Arméniens de France ou les Arméniens des États-Unis. Tout à l'heure, Arakrikorian ou Nishanian, je ne sais plus, a fait allusion au fait que les Arméniens, au fond, étaient très sensibles à l'aspect pratique des choses. Eh bien, c'est un des vice-présidents de l'université d'Yerevan qui m'a lui-même expliqué que, par exemple, les Arméniens de Bakou, c'est encore une communauté relativement... de Batoum. Il s'agissait de Batoum, c'est le même problème en Géorgie. Mais le même problème se pose aussi à Bakou, en Azerbaïdjan. Eh bien, n'avaient pratiquement plus d'école arménienne, il n'y a plus que deux écoles arméniennes à Batoum, et ces Arméniens de Batoum n'éprouvaient plus le besoin, en somme, de demander, d'exiger la création ou simplement le maintien des écoles arméniennes existantes, parce que, emportés par le mouvement pratique de la vie, emportés par le mouvement des sociétés industrielles, eh bien, le russe, qui était la langue véhiculaire, paraissait largement suffisant pour gagner son pain sous toutes les latitudes de l'Union soviétique. Pour ma part, j'ai rencontré à Moscou une très brillante communauté scientifique arménienne de Moscou, extrêmement brillante, constituée d'académiciens ou de sous-académiciens, enfin de gens qui allaient devenir des académiciens d'Union soviétique ou de vice-ministre, etc. C'était des gens remarquablement arméniens par leurs traits physiques, Bon, ils étaient bruns de poils de peau, noirs d'yeux, etc. Ils étaient remarquablement, si vous voulez, animés par un sentiment arménien. Ils ne savaient pas un mot d'arménien. Nous avons dû parler en anglais. Bon, ou dans des langues, dans d'autres langues, mais nous n'arrivions pas à communiquer. Alors, ce problème existe. Et enfin, je voudrais vous faire remarquer que si la culture arménienne est en ce moment, en effet, extrêmement brillante en Arménie soviétique, c'est l'arménien des Arméniens orientaux. Or, ce qui est en train de se perdre, ce dont nous parlons à l'heure actuelle, ce qui a été écrasé par le génocide, ce qui a, à mon avis, à tout jamais disparu, sauf dans quelques foyers du Moyen-Orient, c'est la civilisation des Arméniens occidentaux, c'est-à-dire des Arméniens de Turquie. Ce qu'on n'arrive plus à renouveler, ce n'est pas la littérature arménienne orientale, c'est la littérature arménienne occidentale qui avait son génie propre. Et je crois que ce problème-là, il faut le rappeler, car en Arménie soviétique, la culture de l'Arménie occidentale est au même titre folklorique que pour nous, aujourd'hui, Arméniens de France, la culture arménienne en général.
Je crois en effet que tout notre débat a été une alternance entre le culturel et le politique. En ce qui concerne l'Arménie soviétique, il ne faut pas oublier que le politique détermine le culturel. Je m'explique. L'autonomie culturelle est assez facile à accepter quand le contrôle politique est par ailleurs total et absolu. Dans la mesure où la force... La pulsion historique arménienne peut apparemment se défouler dans une liberté culturelle de langue, de folklore, etc. Le politique peut être, lui, remis au second plan, je dirais même annihilé. Donc, il faut savoir ce que veulent les Arméniens du monde entier. Qu'est-ce qu'ils désirent ? Est-ce qu'ils désirent maintenir un patrimoine qui est fantastique, mais qui est en partie occulté sur... Enfin, qui est libre sur la terre soviétique, mais qui est occulté en tant que réalité d'État, qu'identité, qu'individualité d'État, ou est-ce qu'il désire reconstituer une terre arménienne plus large et indépendante ? Donc il y a toutes les étapes possibles dans l'identité d'un peuple entre son indépendance, son autonomie, autonomie politique ou à un moindre degré, autonomie culturelle. Et il faudrait donc préciser la pensée de chacun à ce sujet.
Mais il faut dire qu'il y a 40 ans, j'avais l'âge de Zovinar. Je vivais en Grèce et il est certain qu'à ce moment-là, les massacres n'étaient pas donc un souvenir aussi lointain qu'il l'est aujourd'hui. Mais il y avait en nous une intensité arménienne dans notre façon d'être. Le fait que j'étais né en Grèce tout de suite après les massacres n'était pas, si vous voulez, un problème ou une tare pour moi. La densité même des sentiments qu'habitait l'Arménien de ma génération, que ce soit en France ou en Grèce, donc dans mon cas en Grèce, était telle que l'Arménie était présente, et par sa culture, puisque les rescapés des massacres qui étaient venus dans cette terre hospitalière qui était la Grèce, faisaient tout pour que et la langue et la culture soient toujours vivaces en nous, et il faut dire que nous en profitions largement. Mais ce qui est dramatique pour nous, c'est que ce petit jeu a continué pendant 40 ans. Et aujourd'hui, il est certain que les chants, les poèmes arméniens qui faisaient que nous restions arméniens en les citant, les récitant, les chantant, commencent à être réchauffés, comme disait notre ami Anaïs Termination. Et tout patrimoine culturel qui n'est pas régénéré, qui n'est pas renouvelé, finit par lasser. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu que l'ensemble de cette diaspora continue à vivre dans un vaste camp de réfugiés comme une sorte d'abcès devant ce monde civilisé, pour qu'on sente qu'il y a un peuple qui réclame quelque chose? À l'époque, les partis politiques arméniens, c'est-à-dire après les massacres, dans les années 20-30, malgré l'offre de Venizelos, n'est-ce pas, qui était le premier ministre grec à l'époque, après les massacres d'Izmirne, avait proposé d'octroyer la citoyenneté grecque à tous les Arméniens qui avaient échappé des massacres. Et les partis politiques arméniens de l'époque refusaient cette naturalisation car, politiquement, ils la considéraient comme néfaste pour réclamer, pour revendiquer ce qui était leur action politique, à savoir que l'Arménie devait être réclamée par des Arméniens et non pas par des Arméniens citoyens américains, français, australiens, canadiens, etc.
Je crois qu'on n'a tout simplement pas dit qui étaient ces Arméniens qui ont été massacrés. C'était un peuple de paysans. C'était des gens qui, de génération en génération, avaient des souvenirs de terres travaillées. C'est très important. Moi, je suis de souche paysanne française et je sais ce que c'est. Et je me réjouis tout le temps d'avoir les deux pieds dans la glaise et de voir le sol de mon pays. Or, ces Arméniens ne le voient plus, en dehors des Arméniens d'Union soviétique. Ils ne le voient plus, ils n'ont pas tellement de perspective de le voir.
Oui, une petite parenthèse, je vois que le professeur Mahé demandait la parole, mais une petite parenthèse, c'est qu'il n'y a pas simplement la quête d'un territoire et une espèce de volonté presque agraire. Il n'y a pas que cela. Il y a de la part de la jeunesse arménienne aussi la volonté de répondre à l'injustice par un besoin de justice. Et c'est ce que nous réclamons à la Turquie. On ne le réclame pas à l'Arménie soviétique parce qu'elle existe, c'est une terre arménienne qui existe. On peut contester son régime, mais on ne conteste pas sa réalité. Par contre, ce que nous contestons à la Turquie, c'est de maintenir l'injustice. Ça se traduit pour certains par une volonté de revenir sur le territoire, d'autres par la volonté de rétablir la justice. Et je crois que c'est très important de le dire parce qu'on a l'impression, et ce reproche d'ailleurs a été formulé dans un ouvrage récent, on a l'impression de retrouver une espèce de sionisme arménien qui est tout à fait à l'opposé de ce que pense la majorité des Arméniens. Et je crois que c'est la transition qu'attend le professeur Mahé, dire qu'il n'y a pas une opposition dans la pensée vis-à-vis de l'Arménie soviétique et vis-à-vis de l'Arménie turque. Il y a tout simplement une coexistence que nous recherchons, car il y a une culture orientale arménienne et il y a une culture occidentale arménienne qui sont à la fois, et c'est assez surprenant, concourantes et parallèles.
Bon, moi, je voudrais revenir, si vous me permettez, sur le caractère indestructible de la culture arménienne dont parlait M. Marcel. Je crois qu'il faut être très prudent et très modeste à ce sujet et considérer que toute culture est mortelle. L'histoire des civilisations nous l'a enseigné ô combien. Il est bien évident qu'il se trouvera toujours des archéologues pour redécouvrir des sites, mais je crois que la culture arménienne, comme les autres, est menacée dans la mesure où elle n'est pas assise sur une identité nationale bien conservée et bien claire.
Je crois que le mot de Valérie, justement, a été prononcé au moment où ça n'était plus possible. Si l'Égypte avait eu des magnétophones et les moyens actuels, scientifiques, l'Égypte continuerait bel et bien et aurait gagné probablement bel et bien sur une foule de points, religieux notamment, et politique aussi, tout étant lié. Vous comprenez ? Je pense qu'effectivement, et je crois réel, que l'Arménie, la culture arménienne, n'est pas destructible du tout. Ou alors la planète entière l'est.
Monsieur André Marcel, il n'est pas question de dire que l'Arménie, la culture arménienne est destructible ou indestructible au sens où vous l'entendez, c'est-à-dire au sens pratiquement archéologique du mot. Tout à fait d'accord. Ce que nous regrettons, c'est, et ça, Monsieur Mahé ne le contestera pas, c'est la disparition progressive de la notion même de culture arménienne, de pérennité et de progressivité de cette culture. Parlons en France, parce que nous sommes en France. Je constate que le nombre d'élèves au collège, dans les collèges arméniens, diminue, dans les écoles, a également tendance à diminuer. Et j'ai même appris tout à l'heure que la chaire de langue orientale arménienne a failli, l'an dernier, être également supprimée pour des raisons technocratiques ou financières. Est-ce que cela n'est pas un signe contre lequel nous nous révoltons par ce biais que vous connaissez, qui est le biais politique?
Écoutez, je crois que ici, attention au malaise. Le malaise universitaire est le même pour tout le monde. Je crois que ce n'est pas une question. Je crois que c'est une question d'enseignement. C'est aussi une question de politique. Enfin, il y a beaucoup de points. Il y a une question de psychologie, il y a un problème clinique. Vous comprenez? Il est valable pour la France tout autant que pour l'Arménie. Vous comprenez? Je crois qu'il se poserait pour le français de la même manière. Il se trouve simplement que la façon dont on enseigne, je crois, l'arménien procède d'une psychologie de l'enseignement qui doit être renouvelée, qui n'est pas bonne. En ce sens, les techniques d'enseignement n'ont pas eu leur 68, si vous voulez, n'ont pas connu ça.
Moi, je crois qu'il faut revenir à des choses très simples. À l'heure actuelle, dans la mesure où on connaît la vie de ces communautés arméniennes en France, et j'ai fait allusion au Sillon rhodanien et à Marseille, et même à quelques banlieues comme Alfortville ou ici les Moulineaux, 80% des mariages sont mixtes. Êtes-vous d'accord? Est-ce que le conseiller municipal est d'accord avec ce chiffre?
Sur 80%, certainement pas.
Alors combien?
Quand vous dites mixte, vous voulez dire arménien et...
Non-arménien.
Non. Alors là, à Alfortville, je constate que c'est la proportion inverse. C'est 20% de mariages mixtes et tous les autres sont entre arméniens.
Bon, alors peut-être qu'Alfortville est tout à fait exceptionnel, mais enfin, moi, les chiffres que j'ai, qui datent des années 70-73, donnent 80% pour Décines et des chiffres qui tournent aux alentours de 80% pour Lyon, pour Marseille, et l'église arménienne de la rue Jean-Goujon donnait aussi des chiffres qui tournaient aux alentours de 80% pour les mariages religieux. Je ne sais pas. Bon, mais enfin, il se peut que la communauté arménienne d'Alfortville, dont le sang, en somme, a été renouvelé par le retour des Arméniens d'Arménie soviétique, bénéficie de conditions tout à fait exceptionnelles. Mais enfin, le problème est simple. Si, aujourd'hui, en France, dans un certain nombre de communautés, la communauté arménienne française, d'ailleurs, ne se connaît pas elle-même, on suppose qu'il y a entre, chiffre le plus pessimiste, 120 000 Arméniens, chiffre le plus optimiste, 200 000 Arméniens en France. Une remarque très simple s'impose, c'est que comme la majorité des Arméniens ont aujourd'hui la citoyenneté française, il est très difficile de trouver, même par l'intermédiaire de l'INSEE, donc les citoyens d'origine arménienne, surtout d'ailleurs lorsque, s'agissant des femmes, elles ont épousé un non-arménien. Alors, si cette communauté arménienne de France, mais c'est le même cas aux États-Unis, en Argentine, au Brésil, en Uruguay, est menacée de disparition tout simplement parce que le mariage mixte entraîne, c'est une remarque tout à fait banale que je fais là, entraîne la victoire de la culture du pays d'accueil. Il est clair que si l'un des parents est français ou américain, les enfants opteront tout naturellement pour la langue du conjoint qui vit dans le pays d'accueil. Je ne dis pas du tout, pour répondre à votre objection, monsieur Luc-André Marcel, que ces enfants ne seront pas intéressés par la poésie, la musique arménienne, les cérémonies à l'église arménienne, même éventuellement l'histoire arménienne, et ne seront pas enthousiastes ô combien au cours d'un voyage en Arménie soviétique, ce qui renouvelle, en somme, aujourd'hui, les moyens d'autoconservation dont disposent les communautés arméniennes de la diaspora. Mais si les choses continuent ainsi, et je crois que Dzovinar sera d'accord avec moi, il est bien évident que les enfants de Dzovinar n'auront plus le moyen de mener ce combat. Alors, si on n'a plus le moyen de mener ce combat, les choses sont simples. Les Arméniens de la diaspora, et c'est d'eux dont il s'agit, qui sont les descendants des Arméniens de Turquie, dont la majorité a été massacrée, dont les survivants n'ont pas émigré, mais au sens propre du terme, ont été déportés. Car il ne s'agit pas d'une émigration volontaire, mais il s'agit d'un peuple qui a été déporté puis chassé de ses territoires et à qui on interdit le retour dans ses territoires. Tout à l'heure, vous aviez fait allusion à l'Égypte, à l'archéologie, etc. Je vous rappelle au passage que même les monuments arméniens de Turquie ne sont pas aujourd'hui comptabilisés car les autorités turques y font obstacle. Les archéologues qui s'intéressent à l'archéologie arménienne, éprouvent dès qu'ils ont franchi les provinces, dès qu'ils ont mis les pieds en Anatolie orientale, les plus graves difficultés à faire leurs recherches, qui sont des recherches purement, mettons, scientifiques. Alors, pour ces Arméniens de la diaspora, le problème arménien est un problème de territoire. Qu'il s'agisse de territoire, enfin je dirais au sens presque animal du terme, en ce sens qu'aujourd'hui les éthologistes constatent que tout animal, qu'il appartienne au monde aérien, subaérien, aquatique, ou simplement, terrestre, tout animal a besoin d'un territoire pour vivre. vivre, pour faire ses petits, pour se reproduire, et pour reproduire, si j'ose dire, ses modes culturels, dans la mesure où on peut parler de modes culturels d'animal. On a fait allusion tout à l'heure aussi à un sionisme. Je ne sais pas, moi je n'aime pas trop ces comparaisons parce que ça entraîne tout de suite dans des discussions épouvantables. Je ne sais pas s'il y a un sionisme arménien, mais je sais que les militants arméniens, et je parle en leur nom, en ce moment-là, les militants arméniens, quelle que soit leur appartenance politique, à l'heure actuelle, envisagent le problème de la survie de la culture arménienne de la diaspora comme un problème politique qui ne pourra être résolu que par le rassemblement des Arméniens volontairement sur un territoire commun. À ce moment-là, cette constatation nous renvoie au problème de l'Arménie soviétique. Est-ce que l'Arménie soviétique ne peut pas aujourd'hui jouer ce rôle de territoire commun de tous les Arméniens? Est-ce qu'après tout, le poème de Kevorkemin que je vous ai lu tout à l'heure n'évoque pas cette possibilité? Eh bien, je ne sais pas si vous vous rappelez ces termes, mais ces termes sont des termes désabusés. Sont des termes, cette recherche de l'impossible moyen pour devenir entier prouve bien qu'un certain nombre de poètes arméniens, d'écrivains arméniens non conformistes, je n'ai même pas dit contestataires, non conformistes d'Arménie soviétique, ne considèrent pas en définitive que l'Arménie soviétique telle qu'elle est puisse résoudre le problème de l'ensemble des Arméniens. Et nous avons eu ces 20 dernières années une expérience douloureuse qui a été l'expérience de ce qu'on appelle le Nerkart. En 46-47, les autorités soviétiques ont organisé un retour des Arméniens de la diaspora en Arménie soviétique. Cette expérience a intéressé 200 000 personnes environ. Une partie, c'est-à-dire la majorité d'entre elles, je dois dire, s'est installée et s'est intégrée à l'Arménie soviétique. Une minorité a quitté l'Arménie soviétique et continue à la quitter. Nous l'avons appris par la presse française ou américaine. À l'heure actuelle, ce sont les Arméniens qui, avant les Juifs, sont les plus nombreux à demander leur départ de l'Union soviétique. Il y a donc là une expérience qui a raté, partiellement, qui a réussi par ailleurs de façon magnifique pour ceux qui ont pu s'intégrer, mais constatons que l'Arménie soviétique a entrouvert légèrement ses portes ces 10 dernières années aux communautés arméniennes du Moyen-Orient, plus spécifiquement à la communauté arménienne d'Iran, qui par la langue, l'origine, la culture est la plus proche de la communauté arménienne d'Arménie soviétique, et cette ce retour, si vous voulez, des Arméniens dans leur patrie commune n'intéresse bon an mal an que 1500 à 4000 personnes. Bon, il n'y a pas là, à l'heure actuelle, de possibilité de solution de la question arménienne par la voie de l'Arménie soviétique. Et je n'évoque même pas ici le problème des libertés en Union soviétique, qui est un problème auquel tout individu, qu'il soit arménien ou non, est confronté.
Moi, j'irai plus loin. Je dirais que cela tient surtout au génie profond de l'Arménie. Ça tient à l'Urartu. Je crois qu'il y a des peuples extrêmement évolués, je crois que c'est le cas, qui n'ont pas besoin d'une patrie pour être, et être autochtone, si j'ose dire, autonome, plus exactement, si vous voulez. Et je crois que c'est le cas. Ça, il est très vrai, ce que vous dites est tout à fait exact, madame, c'est que l'Arménien supporte mal le cadre politique évident de l'Union soviétique. C'est la raison, je crois, léguée pour expliquer toutes ces fuites, ces départs, ces besoins de revenir en diaspora. Mais je crois que ça n'altère pas la réactivation permanente du génie du peuple arménien, je ne crois pas.
Les portes de la ville d'Alfortville était ouverte, et ça s'est su. C'est comme ça qu'effectivement nous avons accueilli beaucoup d'Arméniens, retour d'Union soviétique.
Peut-on vous demander combien à peu près?
Ah, je ne peux pas dire, non. Je ne connais pas la quantité de personnes. Mais
je peux préciser ce point parce que nous avons fait une enquête très rapide. C'est entre 600 et 700 Arméniens, probablement un peu plus.
Merci. Alors, ces familles ont donc été accueillies à Alfortville, elles y vivent. Alors, paradoxalement, maintenant, elles sont porteuses, elles, de la culture arménienne orientale. Et les problèmes d'intégration des deux cultures, de la coexistence des deux cultures arméniennes se posent. On parle des uns et des autres en termes différents. Nous ne sommes plus seulement maintenant une diaspora porteuse d'une seule culture, mais des deux. Et l'unité même de cette, ou l'unification de ces deux cultures-là se pose sur un territoire donné actuellement. C'est vrai, ça existe.
C'est très intéressant. Oui.
Nous sommes des Juifs arabes en Israël, quoi. C'est le même problème.
Bien entendu, on ne peut pas, pour toutes sortes de raisons, envisager la réunification de tous les Arméniens, le retour de tous les Arméniens de la diaspora en Arménie soviétique. Mais je voudrais... Il y a quand même des relations qui peuvent s'établir d'une autre façon. Par exemple, quand j'étais à Yerevan, j'ai fait connaissance de plusieurs étudiants stagiaires arméniens qui étaient originaires de France et qui revenaient, qui, comme moi, avaient la possibilité de séjourner, d'ailleurs plus longtemps que moi, je crois certains d'entre eux, jusqu'à 5 ou 6 ans en Arménie soviétique pour y faire des études. Et pour retrouver justement leur caractère d'Arménien.
Il y a en permanence entre 500 et 600 étudiants, peut-être que le chiffre maintenant sera porté à 1000, étudiants venus de la diaspora dans les principales villes d'Arménie soviétique. Donc ça ne dépasse pas ce quota-là.
Oui, mais c'est quand même très important parce que ça peut contribuer à former justement un biculturalisme authentique. Je veux dire, des gens qui savent parfaitement le français puisque c'est leur langue maternelle, ils sont nés en France sans aucun doute, et qui quand même vont acquérir des connaissances, une culture arménienne extrêmement poussée. Alors, je sais bien que le problème... Dans les cas culturels, c'est de faire passer la culture d'une élite ou d'un certain nombre de spécialistes dans la masse, mais c'est quand même une chance qui s'offre là.
Il ne faut pas oublier que la moitié des survivants du génocide de 1915 sont passés dans l'Arménie actuellement soviétique. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient dans la province de Van ont été sauvés par l'avance de l'armée russe et ont été ensuite réfugiés dans l'Arménie russe, devenue ensuite Arménie soviétique. À travers d'ailleurs une expérience qui est importante, qui est l'expérience d'une république indépendante arménienne de mai 1918 à novembre 1920. Donc déjà des gens qui étaient de deux cultures différentes et qui ont eu l'occasion, pendant une période très brève, mais une période très intense, de fusionner, sinon de fusionner, de confronter ces cultures. Donc cette identité...
Il ne faut pas mésestimer les difficultés que les Arméniens auront dans le cas d'un rassemblement dans une terre, dans un territoire réellement indépendant. On a eu le cas... avec les Arméniens orientaux et les Arméniens occidentaux qui n'étaient pas tellement concurrents. On a le cas également des Arméniens de France qui ont eu du mal à s'intégrer à l'Arménie soviétique pour des raisons également de culture et de manière d'être. Et moi, je suis sans illusion, dans le cas d'une Arménie réellement indépendante, type l'Arménie donc de la République Tachnag en 1918, et je pense qu'il y aura là encore une tour de Babel indiscutable. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour ne pas demander le rassemblement? C'est là où, si le problème politique et culturel sont indissolubles, il y a également dans la démarche une volonté malgré tout de les séparer, car s'ils n'ont pas l'illusion de rassembler toutes les cultures et de les faire se fondre, nous avons en tout cas la certitude que les Arméniens sauront se réunir autour d'un même thème qui est la redécouverte de l'identité arménienne sur un territoire commun, que les Arméniens y aillent ou n'y aillent pas. Je crois que c'est ça le plus important. Ce n'est pas une abstraction, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité que d'autres peuples ont connue d'ailleurs. Et je crois que les Arméniens, tôt ou tard, vont la connaître.
Mais tout à l'heure, on parlait de la folklorisation de la culture arménienne, des difficultés qu'avait par exemple la culture arménienne à se survivre sur un modèle ancien en Occident. C'est vrai de la littérature. Ce n'est déjà plus vrai, par exemple, de la peinture ou de la musique. Et je voudrais dire, pour en terminer, qu'en Arménie soviétique, le peuple arménien est en train de vivre une nouvelle révolution culturelle, par exemple, au niveau de la science arménienne. Bien sûr, au Moyen-Âge, il y avait eu des mathématiciens arméniens, mais je crois que pour la première fois, le peuple arménien cessait d'être un peuple de pasteurs, d'artisans et de paysans pour devenir un peuple de scientifiques. Et se pense l'avenir de l'Arménie comme un développement scientifique et technologique de plus en plus accéléré.
Je voudrais revenir si possible pour regrouper l'ambiguïté de cette situation actuelle de l'Arménien, qui, s'il veut chercher son identité, que le peuple dans lequel il vit le peuple français, ou en l'occurrence pour Michael Arlen, le peuple américain ou tout autre peuple, tend à lui faire, sinon oublier, du moins à la réduire un petit peu, s'il veut la rechercher, il s'embarque pour l'Ararat. Il va en Arménie soviétique. Et c'est là le double visage du livre de Michael Arlen, c'est qu'il y va non seulement pour retrouver la culture de son passé et même l'histoire de ce peuple, mais également pour retrouver son père. C'est-à-dire ce père qui, lui, écrivain, humoriste anglais, avait cherché à élever son fils dans une voie d'assimilation, à le diriger vers l'assimilation, et le fils recherche à travers le père, à travers le père qu'il n'a pas connu, qu'il a méconnu et qu'il condamne en fin de compte, recherche la motivation de son père et le recherche sur cette terre d'Arménie soviétique, sur cet Ararat, qui est une sorte de mont analogue de voyage, si vous voulez, de voyage initiatique de l'Arménien vers son identité. Donc, je crois que l'on ne peut pas dire que l'on est pour ou qu'on est contre l'Arménie soviétique. Ce serait stupide. Ce serait vraiment au premier degré de la débilité. Ce sont deux éléments qui existent. L'un, l'Arménie soviétique en tant que parfaite autonomie culturelle, ou enfin très large autonomie culturelle de l'ancienne Arménie sur l'ancienne terre arménienne. Et l'autre, la diaspora, à la recherche, avec ce que lui offre comme seule terre l'Arménie soviétique, de cette identité qui est en lutte contre une assimilation qui est un fait évident dans nos sociétés modernisées.
Oui, je voudrais quand même dire, si Michael Arlen retrouve en Arménie soviétique son identité, en tout cas la concrétise, il faut également ne pas oublier que c'est aux USA, c'est à New York, qu'il a été contacté par une association quelconque, qu'il a invité à faire une conférence à New York. Il a fait cette conférence et, au départ étranger à la question arménienne dans son sens le plus large et le plus noble, il s'est redécouvert un être arménien. Et cet exemple est caractéristique parce que je l'ai senti personnellement aussi bien dans la revue Ayastan du Nocerund que dans le cadre du comité de défense de la cause arménienne. C'est lorsque nous sollicitons par une action quelconque dans la rue ou bien au cours de réunions publiques ou en tout cas de quelque manière que ce soit, que les Arméniens se découvrent quelque chose, le déclic se produit. Et nous avons eu souvent le cas de dizaines et de centaines de jeunes qui sont venus nous voir, nous jeunes adultes déjà, ayant passé l'adolescence depuis longtemps, ils sont venus nous voir en disant « Tiens, ça m'a frappé ». Je trouve que ce déclic est nécessaire en diaspora et cette identité qui se matérialise est également nécessaire en Arménie. Il se trouve que c'est l'Arménie soviétique, ça aurait pu être une autre Arménie, l'Arménie turque par exemple.
Et pour terminer cette émission, je voudrais vous rappeler une phrase de Dzovinar Kevonian, qui a 11 ans, je vous rappelle, qui disait tout à l'heure « Il faut que le peuple arménien retrouve une terre. Si cette terre n'est pas l'Arménie soviétique, où est-elle? Où peut-elle être ?»
Elle peut être en Iran du Nord, que j'ai connu cet été en y allant, et que j'ai connu avec son monastère, enfin ses monastères. J'en ai connu un particulièrement parce que j'ai passé l'été. C'est le monastère de Saint-Adée. On ne peut pas dire que c'est seulement Yerevan et ses environs qui est l'Arménie. Parce que, enfin moi, je croyais ça, mais ce n'est pas vrai. Puisque cet été, j'ai connu une autre face de l'Arménie qui se complète. C'est-à-dire, c'est comme un puzzle. Moi, je croyais que l'Arménie était Yerevan et ses environs. Et puis ça s'est complété complètement parce qu'il y avait d'autres brides. Mais ça s'est complété avec l'Iran. Et puis après, j'ai vu la Turquie. Et puis, enfin, ça s'est tout complété. Et j'ai su très bien que ce n'était pas Yerevan et ses environs. Alors, je ne comprends pas. Parce que dans le livre dont on a parlé, quand on dit, on parle de Yerevan et ses environs. Mais je ne comprends pas. Mais pourquoi Yerevan ? Ça peut être autre part.
Un petit mot pour compléter ce qu'elle dit. Effectivement, où est la dernière image de Michael Arlen quittant l'Arménie, c'est-à-dire Yerevan, c'est celle d'un homme qui quitte donc son pays, le pays de ses ancêtres, mais qui quand même quitte le pays de ses ancêtres pour aller vivre son identité ailleurs. Alors effectivement, l'Arménie n'est pas morte.
Vous avez dit l'Arménie et vous avez dit Yerevan, mais ce n'est pas vrai. L'Arménie, ce n'est pas Yerevan, c'est tout. Enfin, c'est pas que, que Yerevan.
Je crois qu'il faut rappeler, peut-être pour expliquer sa prise de position, ce fait historique qu'au XIXe siècle, l'Arménie historique s'est trouvée divisée entre trois empires. L'Empire russe d'une part, l'Empire ottoman d'autre part, et une petite partie, mais conséquente quand même, en Iran du Nord, où, dans l'Empire perse, donc, où son identité arménienne est toujours demeurée. Et je pense que dans ce monastère de Saint-Adé, c'est cette identité, cette pérennité qu'a découvert Tsovinar.
On a parlé, on a évoqué, peut-être dans des termes qui peuvent donner l'impression d'une rupture très douloureuse, le problème de l'opposition entre les Arméniens qui vivent en Arménie soviétique et les Arméniens de la diaspora. Et puis, cette opposition s'est peut-être un petit peu atténuée dans la mesure où Madame Terminassian a fait remarquer que beaucoup d'Arméniens de la diaspora ont été très fiers de voir les Arméniens se mettre à la science, à la technique en Arménie soviétique. Et je dirais l'inverse, et c'est très important. Je crois que les Arméniens d'Arménie soviétique sont très fiers de la diaspora, très fiers. J'ai assisté à la réception offerte à Willem Saroyan au théâtre. Ça a été un délire, un enthousiasme. La fierté que suscitent certaines personnes comme Aznavour est quelque chose de très frappant. Eh bien, je crois que au-delà de cela, il y a quelque chose de très important. Ce qui, justement, l'existence de cette diaspora, qu'ils la sentent toujours présente devant eux, est un encouragement, certainement, à garder, à ne pas se laisser attraper par la force centrifuge qui existe du seul fait des structures administratives et à rester eux-mêmes en Arménie soviétique.
Le fait que les Arméniens soviétiques ou les Arméniens de France fêtent un certain nombre d'entre eux, qu'ils se distinguent dans la science, dans les arts, dans la littérature, de la façon que vous venez d'évoquer, c'est au fond la preuve qu'ils sont à l'affût de tout ce qui peut être arménien. C'est très typique des peuples, je dirais, brimés, cet appétit de gloire, enfin. Ils sont, en effet, vous avez cité le nom de Saroyan, d'Aznavour, mais pas de Migoyan, par exemple. Il est très remarquable qu'en Arménie soviétique, la plus grande figure politique arménienne d'Union soviétique ne soit pas l'objet des mêmes festivités. Et ce que vous venez de dire des rapports entre les Arméniens soviétiques et ceux de la diaspora, j'y souscris complètement. Et je dirais que quand un Arménien de la diaspora qui débarque en Arménie soviétique, qui n'a pas nécessairement des cousins et des parents, eh bien, il découvre chez les Arméniens soviétiques des frères, des complices au sens très profond du terme. Et mes meilleurs amis, je les ai en Arménie, et je sais que même si j'y retourne seulement dans 10 ans, eh bien, je retrouverai ces amis ou d'autres avec une chaleur, une amitié, une sorte, enfin, l'impression de sortir du giron commun, qui est une expérience quand on l'a vécue, qu'il est extrêmement difficile d'oublier.
Voici donc terminé cette rencontre avec Arlan Papazian et nos amis de la communauté arménienne de Paris.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 janvier 1978.